28 à Dubaï. La COP29, elle sera à Fessenheim. La 33 dans le Mordor. Et la 44 dans la Station Spatiale Internationale.
Tous les humoristes en vidéo sur le YouTube de France Inter.
Vous êtes bien sur France Inter, il est 9h.
Le journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Un procureur spécialisé, la mise en place d'un véritable statut de repenti. Le ministre de la Justice dévoile une série de mesures pour lutter contre la criminalité organisée. Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Avec le changement climatique, les métiers du bâtiment en première ligne. Et puis que font les enfants sur leur smartphone? Les parents peuvent-ils fouiller dans leur téléphone? Oui, disait la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté il y a quelques jours, mais ce n'est pas si simple. Nous expliquera Xavier Demani.
Et à 9h10, bientôt la fin du droit du sol à Mayotte. C'est l'objet d'un projet de loi présenté début juillet en Conseil des ministres. Objectif, dissuader les migrants clandestins d'accoster sur l'archipel français. Interception, le grand magazine de la rédaction s'est rendu sur place. À écouter donc après le journal.
France Inter. Éric Dupond-Moretti veut s'attaquer au crime organisé et au gros bonnet de la drogue. Et il dévoile son projet dans une interview à la Tribune dimanche. Car après les opérations Place Nette pilotées par son collègue Darmanin, le ministre de la Justice veut cibler ces mafias qui contournent les techniques policières. Bonjour Sarah Guibaudot.
Bonjour.
Alors tout d'abord, le garde des Sceaux souhaite un nouveau parquet dédié au crime organisé sur le modèle du parquet national financier ou du parquet antiterroriste.
Oui, pour démanteler les réseaux les plus importants. Il existe aujourd'hui une juridiction spécialisée, la Junalco, au sein du parquet de Paris. Avec 22 procureurs et 9 juges d'instruction, elle traite ce qu'on appelle le haut du spectre en matière de trafic de stupéfiants, mais aussi traite d'êtres humains ou cybercriminalité. En faire une juridiction nationale permettra notamment de renforcer ses effectifs. Pour, par exemple, frapper les criminels au portefeuille, c'est ma priorité, déclare Éric Dupond Moretti. Mais un magistrat de la Junalco nous confiait récemment que les têtes de réseau des trafics de drogue sont très habiles pour mettre leur profit hors d'atteinte en investissant dans l'immobilier à Dubaï, par exemple.
Et parmi les autres mesures évoquées, Sarah, une réforme du statut du repenti.
Oui, car le statut du repenti à la française inspiré de l'Italie ne fonctionne pas. Pour en bénéficier, il faut donner des informations sur un réseau, mais il ne faut pas avoir de sang sur les mains. Il n'y a pas de réduction de peine à la clé. Résultat, depuis 20 ans, on a enregistré qu'une vingtaine de repentis. Le garde des Sceaux veut élargir le dispositif à ceux qui sont impliqués dans des crimes ou des délits et qui pourront bénéficier d'une peine réduite. Éric Dupond-Moretti souhaite aussi porter à 20 ans de prison la peine pour une association de malfaiteurs en matière de criminalité organisée et créer une cour d'assises spéciale composée de magistrats pour les assassinats liés au trafic pour éviter les pressions sur les jurés.
Et tous les détails de ce projet seront présentés en octobre, précise Éric Dupond-Moretti. Et c'est donc dans cette interview. Merci Sarah Guibaudot. Le garde des Sceaux dans la Tribune dimanche et Emmanuel Macron face aux jeunes dans la presse quotidienne régionale du groupe EBRA à un mois et demi des européennes. Le chef de l'État redit qu'il est prêt à ouvrir le débat d'une défense européenne avec l'arme nucléaire, qui comprendrait aussi donc l'arme nucléaire.
Et puis en Italie, Laurence, Giorgia Meloni est attendue comme tête de liste aux européennes.
La première ministre italienne va, sauf grosse surprise, déclarer sa candidature aujourd'hui à Pescara, l'un des bastions de son parti Fratelli d'Italia. Elle se lance pour le symbole, car elle ne démissionnera évidemment pas de son poste, et à un moment où son image de dirigeante plus modérée que prévue est en train de s'atténuer. À Rome, Bruno Nuvic.
À l'international, Giorgia Meloni ne roule pas à l'extrême droite. Alignement sur les positions atlantistes, soutien à l'Ukraine et pas d'écart majeur au sein de l'Union européenne. Mais en Italie, un autre visage se dessine. À plusieurs reprises, elle s'est agacée qu'on l'accuse de vouloir toucher à la loi sur l'avortement.
Je ne veux pas modifier cette loi. En quelle langue je dois le dire?
Et pourtant, ce mardi, sa majorité a voté pour que les associations pro-vie puissent entrer dans les centres de consultation sur l'avortement. Et puis il y a la censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati, il y a 8 jours, à la RAI. Demande directe du pouvoir ou excès de zèle d'un cadre, quoi qu'il en soit, Giorgia Meloni est comptable du climat à la télévision publique, où elle a placé ses relais très vite après son arrivée au pouvoir. Dans quel camp se rangeront ses troupes au Parlement européen après l'élection du 6 juin? Résolument avec la droite nationaliste ou plus proche des modérés lors de certains votes? Elle renvoie à la presse scrutin quand cette question lui est posée. En tout cas, ces européennes, les premières élections générales depuis l'arrivée de l'extrême l'extrême droite au pouvoir seront importantes en Italie. Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, héritier de Berlusconi, sera candidat, tout comme la leader de l'opposition, Elie Schlein.
Bruno Duvic à Rome pour France Inter. Un drame aux États-Unis qui n'est pas sans rappeler la mort de George Floyd en 2020. Un Afro-Américain de 53 ans est mort étouffé sous le genou d'un policier dans la ville de Canton, dans l'état de l'Ohio. Frank Tyson, suspecté d'être impliqué dans un accident de la route, avait été interpellé dans un bar. Une arrestation musclée qui remonte au 18 avril, mais la vidéo vient seulement d'être diffusée par les médias américains et les réseaux sociaux.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.
Des conditions de travail qui vont empirer avec le réchauffement climatique, selon un rapport de l'ONU publié cette semaine. Et 70% des travailleurs dans le monde sont concernés. Avec les épisodes de forte chaleur, les risques de cancer, de crise cardiaque ou encore de maladies dues à des parasites comme le paludisme vont augmenter. En première ligne, les métiers qui se font à l'extérieur, comme ceux du BTP. Reportage Romaric Caillé.
Sur les toits depuis 15 ans, David est soudeur étancheur. Il le constate, les conditions de travail l'été sont de plus en plus difficiles.
L'année dernière, encore... Au mois de juillet, sous 40 degrés, j'étais en toiture. J'ai soudé peut-être 20 minutes, je suis ressorti tout rouge.
À côté de David, Ali, son collègue de chantier, lui dit avoir fait plusieurs fois des malaises à cause de la chaleur. Il demande aux employeurs d'en faire plus.
Normalement, la loi dit, tous les deux étages, on met une fontaine. Mais c'est pas ce qu'ils font. Il faut sortir pour aller boire, c'est pas cohérent.
Mais regarde pas les risques, ce qu'ils regardent, c'est le résultat final qu'ils font, c'est tout.
Pour David, il faut s'inspirer de la législation qui existe sur les matériaux. Elle permet de les protéger en cas de température extrême.
Même pas pour les gens qui travaillent, c'est pour les matériaux. Moi, que le béton ne tire pas ou que tel produit ne s'applique pas par de fortes chaleurs, c'est bien. Mais avant tout, l'humain, déjà.
L'ONU, dans son rapport, appelle les pays à adopter de nouvelles lois pour protéger les salariés. Un argument de plus pour Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
Prévoir dans le Code du travail des températures maximum au-delà desquelles on ne peut pas travailler. On sait aujourd'hui dire qu'il y a des ouvriers qui meurent à cause de la canicule dans la construction ou dans l'agriculture notamment.
En 2022, selon les autorités, 7 Français sont morts au travail en lien possible avec la chaleur.
Remarque Caillé. Savez-vous si le poulet que vous achetez en grande surface est élevé dans des conditions décentes ? La réponse est non la plupart du temps. Alors pour alerter sur les conditions d'élevage, les militants de défense des animaux, L214, ont fait une action hier partout en France, dans les supermarchés. Dans leur viseur, les marques Le Gaulois, Loué, Maître Coq, qu'ils souhaitent voir signer une charte européenne qui garantisse de meilleures conditions de vie et d'abattage des poulets. Reportage au Monoprix de Besançon de Laurette Puot.
C'est par équipe de deux que les militants se répartissent les magasins. Étienne et Amandine entrent dans le Monoprix et s'activent. Ils retirent tous les produits de la marque Gaulois, les mettent dans un panier avant d'y coller les stickers.
Faites attention à ne pas gêner le travail des caissières, des caissiers, en ne plaçant pas sur le code-barre, par exemple.
Le personnel ne fait aucune remarque.
C'est légal parce qu'on ne dégrade pas les produits. Et on a le droit de prendre un produit et de le remettre en rayon.
Sur ce sticker à l'allure commerciale, la photo d'un poulet d'élevage décharné, malade, et ce slogan garantit 100% souffrance. Amandine, co-responsable de l'antenne de L214 à Besançon.
On ne voit pas en fait la réalité dans les publicités. On ne voit pas les hangars fermés, obscurs, des pattes qui se brisent sur les chaînes d'abattage. Tout ça, on ne le voit pas. Donc je pense vraiment que la majorité des consommateurs et des consommatrices ne sont pas au courant. Et on est là pour montrer la vérité justement.
Si certains clients n'ont pas forcément prêté attention à la sortie du magasin et face à l'image de ce sticker, Henri, lui, reconnaît sa méfiance.
Je fais moins confiance au poulet des grandes surfaces. Je préfère aller au marché, discuter avec la personne en direct, surtout si c'est l'éleveur.
Plus de 70 stickers ont été collés sur les produits gaulois du Monoprix. Au total, 400 pour les 10 magasins ciblés à Besançon.
Laurette Puot de France Bleu Besançon. Faut-il aller fouiller dans le téléphone de nos enfants ? Question posée cette semaine après les propos choc de Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Un adolescent est un mineur, donc les parents ont le droit de fouiller dans le téléphone, a-t-elle dit. Sauf que ce n'est pas si simple. Bonjour Xavier Demagny.
Bonjour.
Alors plusieurs textes indiquent bien que les enfants disposent d'un droit à la vie privée.
Oui, le Code civil français d'abord qui l'explique. Le respect de la vie privée vaut pour tout le monde, y compris les mineurs. Il précise aussi le cadre de l'exercice de l'autorité parentale dans le respect de l'enfant et en l'associant aux décisions qu'il concerne. Ce droit à la vie privée est aussi présent dans la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'homme, notamment à propos des conversations, en clair les échanges de messages.
Alors ça, c'est pour la théorie, Xavier, mais en pratique, justement, qu'est-ce qu'on fait du même coup ?
eh bien c'est là que ça se corse. Pour Vanessa Lalo, psychologue clinicienne, spécialiste des pratiques numériques, il faut trouver le juste équilibre entre contrôle parental et respect de ce droit.
Alors ce qui est naturel, c'est d'avoir peur pour ses enfants et de vouloir les protéger. Mais si on fouille, qu'on est intrusif, ça risque de créer un sentiment de trahison, de manque de confiance par la suite dans les relations. C'est quand même essentiel que l'enfant puisse faire confiance à son parent. Et être intrusif, ça peut pas être une bonne chose dans l'autonomisation des enfants vers une future émancipation.
Il existe des moyens très simples pour paramétrer un temps d'utilisation maximal sur un écran ou restreindre l'accès à certaines applications. L'idéal, selon Vanessa Lalo, est d'accompagner cet usage et de le faire reposer sur des règles établies avec les enfants, règles qui évoluent forcément avec l'adolescence et plus on se rapproche de la majorité.
Xavier Demagny, un mot de football. Le PSG est suspendu à la rencontre aujourd'hui entre Monaco et l'OL pour devenir champion de France pour la 12e fois. Car hier, le Havre a tenu en échec les Parisiens au Parc des Princes, un match nul 3 partout, c'était lors de la 31e journée de Ligue 1.
Laurence Thomas pour le journal, il est 9h10.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Céline Dacosta, les averses sont pour l'est du pays aujourd'hui.
Oui, de bonnes averses hein, même. Du Languedoc, région PACA jusqu'en Franche-Comté et Alsace. On a également un temps un petit peu mitigé près des côtes de la Manche et des côtes atlantiques ce matin avec quelques averses. Entre les deux, un ciel plus calme, alternance de nuages et d'éclaircies. Beaucoup de nuages quand même hein, sur la moitié nord. Toujours du vent, plus faible qu'hier et surtout présent sur le quart sud-est et près de la Manche pour les températures. Ça grimpe un tout petit peu ce matin, quelques degrés, hein, 6 à 15 degrés du nord au sud.
Ça ne fait pas rêver. Hein.
Non. Et puis on n'aura pas beaucoup de changements cet après-midi, ça ne fait pas rêver non plus.
Non, c'est vrai, excepté sur l'est de la région PACA, les Alpes-Maritimes, le Var, où là on va retrouver un temps plus sec avec un soleil voilé. On va continuer à avoir de la pluie du Languedoc à la région Rhône-Alpes et Nord-Est, surtout sur les Cévennes. Là on attend des cumuls importants. C'est le 7e épisode Cévenol hein, depuis le début de l'année. Pour le reste du pays, le ciel sera changeant, nuages éclaircis, des averses qui vont rentrer un petit peu plus dans les terres sur l'ouest du pays. Puis pour les températures, 12 à 19 degrés, c'est mieux que la semaine dernière quand même. Jusqu'à 26 degrés en Corse, à Ajaccio, puisque la Corse est à l'écart de la perturbation et le soleil va briller là-bas toute la journée.
Merci Céline Dacosta. Un grand merci aux équipes du 6-9, à la réalisation Louis Audebert, Anaïs Reynard et Anne-Laure Cochet, à la coordination Benjamin Ducy, à la rédaction en chef des journaux Yann Gallic, assisté de Stéphane Rousset et Caroline Desrosiers, à la documentation Maëlle Polsinelli et Anaïs Poncin, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la programmation des invités, Elisabeth Rouvet, Mathilde Clatt et Florence Gimalac, au standard, Cara, Marie-Lou, Emma D, Emma M et Dylan, et pour les mauvaises nouvelles, Céline Dacosta. Dans un instant, le magazine Interception à Mayotte, le droit du sol en question, Sophie Parmentier.
Le dimanche sur France Inter,
Le masque et la plume.
Rebecca Manzoni.
Rendez-vous au cinéma avec les critiques du masque cette semaine. Nous débattrons d'un polar, d'un nouveau film qui traite du malaise scolaire ou encore de Back to Black, biopic d'Amy Winehouse. Au programme, enthousiasme, désaccord et panache.
Le masque et la plume.
Tous les dimanches sur France Inter, à 10h et à 20h.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, le 1er mai au cinéma, un film France Inter.
France Inter, 9h13, tout de suite le magazine Interception présenté par Aurélien Colli.
On a annoncé, avec l'accord, mais même plus que l'accord, à la demande du président de la République, la fin du droit du sol à Mayotte pour qu'il y ait des mesures radicales et un effet radical sur les flux migratoires à Mayotte. Il faut des mesures très fortes sur l'immigration. Et il faut aussi des mesures en complément sur la sécurité. Et ça, c'est le projet de loi Mayotte.
C'est une brèche inédite dans le droit français et dans l'histoire de notre République. La suppression du droit du sol dans un département, en l'occurrence Mayotte. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est venu l'annoncer en personne sur l'île en février dernier. Et la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, que vous venez d'entendre, en a remis une couche début avril à l'occasion d'une visite à Mayotte. La loi n'est pas encore votée, mais elle s'inscrit dans la politique de fermeté affichée par les autorités françaises pour lutter contre l'immigration clandestine et l'insécurité qui ronge ce département français perdu dans l'océan Indien. L'immigration clandestine, c'est celle qui vient principalement des îles voisines, l'archipel des Comores, indépendant depuis 50 ans, mais sans Mayotte, qui avait choisi à l'époque par référendum de rester française. Tous les jours, des barques de fortune, des kwassa-kwassa, déposent donc clandestinement à Mayotte les candidats à un avenir meilleur, au grand dam d'une population locale de plus en plus exaspérée, qui voit dans cette immigration une menace quasi existentielle et l'origine de toute l'insécurité sur l'île.
Nous, Mahorais, originaires de sang de Mayotte, nous sommes voués à disparaître. Nous sommes des êtres humains, tous, mais chacun a un chez-soi. Ces gens-là doivent rentrer chez eux et on ne lâchera jamais. On se battra jusqu'au bout.
Les autorités françaises sont évidemment plus nuancées et tentent de donner des gages. Elles multiplient les opérations pour démanteler les bidonvilles où sont installés une partie des migrants. Opération Wambushu l'année dernière, opération Place Nette en ce moment même. En mer ou à terre, la police aux frontières multiplie également les contrôles.
Contre l'immigration irrégulière au quotidien, c'est environ entre 24 000 et 25 000 personnes par an qui sont reconduites vers différentes destinations. Et par conséquent, c'est un travail inlassable.
Bien que Mayotte soit aujourd'hui le département français le plus pauvre, avec le plus fort taux de chômage et un niveau de vie très inférieur à la métropole, l'île française reste attractive, avec son PIB largement supérieur à celui des Comores ou d'autres pays voisins. Avec aussi son système scolaire, son système de santé et ce droit du sol, qui permet en principe à n'importe quel enfant né sur le sol français de revendiquer la nationalité française. Un droit constitutionnel qui a déjà été restreint une première fois à Mayotte en 2018 et que le gouvernement souhaite désormais carrément supprimer. Mayotte, le droit du sol en question, c'est un reportage de Sophie Parmentier avec à la prise de son Gilles Gallinaro, direction pour commencer Mamoudzou, le chef-lieu du département de Mayotte.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
C'est quoi?
France Inter.
Inter, oui, je suis là, je vois les habits, c'est le jour de la Madala. Non, regardez chez moi. France Inter, je vois.
Daradiero, 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 Namparibu. Darayaklibu, Diero, 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 Diero.
Bonjour. On arrive au centre hospitalier de Mayotte. On va aller à la maternité. C'est la plus grosse de France. Un hôpital aux murs gris et bordeaux. Sous un énorme arbre, on voit une banderole accroché à un mur. Le renouvellement de la population n'est pas atteint. Point d'interrogation est-il écrit en noir sur cette banderole. Et on voit autour de nous des mamans enceintes qui sont venues pour consulter ou pour accoucher. Alors on arrive dans la cour de la maternité. Il y a plusieurs mamans qui sont assises par terre, qui sont au bord de l'accouchement. Bonjour madame.
C'est ma petite sœur.
C'est votre petite sœur qui va accoucher?
Oui, il est un terme, mais malheureusement c'est très dur, mais on n'a pas le choix.
Elle a quel âge votre petite sœur?
Elle a 16 ans.
Et c'est son premier bébé?
Oui, c'est le premier bébé.
Et vous, vous avez quel âge?
Moi, j'ai 24 ans.
Et vous avez déjà des enfants, vous?
J'ai déjà, oui, beaucoup. J'ai 4 enfants, exactement. Et à 14 ans, je suis tombée enceinte. Je sais qu'il a mal. Allez, courage.
La grande sœur aide sa cadette à se relever et elle s'éloigne. On va essayer de s'approcher d'une autre mère qui est allongée par terre, à même le sol de béton, dans une chaleur étouffante. Elle cache son visage derrière un foulard.
Bonjour madame, vous êtes sur le point d'accoucher vous?
Pas encore.
Vous venez des Comores vous aussi?
Oui, oui. Mais je suis arrivée en Kwassa avec ma mère. Ça fait vraiment longtemps que je suis à Mayotte. Des années.
Et pourquoi vous êtes venue à Mayotte?
Je sais pas, moi j'étais petite, c'est ma mère qui m'a amenée ici.
Et là, si vous accouchez à Mayotte, votre bébé, il aura des papiers français?
Oui, vu que son papa, il est même français, oui. Ça, c'est sûr, c'est mieux pour lui. Hein. Et pour moi aussi, parce que je peux chercher un titre de séjour pour ma vie à Mayotte. Parce qu'à Mayotte, ici, vous comprenez, l'immigration, vous savez, si on n'a pas de papier...
Pour l'instant, vous n'avez pas de papier?
Non, j'en ai pas. J'espère en avoir là quand je vais accoucher, Inch'Allah. Mais oui, hein, vu que j'ai pas de papier, oui, j'ai peur de me faire...
De vous faire arrêter.
Oui, oui.
Ça vous est déjà arrivé?
Oui, plusieurs fois.
Et ça vous est déjà arrivé d'être renvoyé aux Comores?
Oui, quatre fois.
Quatre fois, vous avez été renvoyé?
Oui, oui.
Et quatre fois, vous êtes revenu en Kwassa Kwassa?
Oui, oui. Parce que là-bas, la vie n'est pas meilleure qu'ici. Ça, c'est sûr. La vie là-bas, il est dur, il est compliqué. Pas comme ici, en fait. Pour cela que tous les Comoriens, tous les jeunes viennent à Mayotte ici. Parce que là-bas, la vie est difficile, madame.
Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français.
Gérald Darmanin, février 2024.
Il ne sera donc plus possible de pouvoir venir à Mayotte de façon irrégulière ou régulière, de mettre un enfant au monde ici et d'espérer devenir français de cette façon.
Malgré cette nouvelle règle liée au droit du sol, les Comoriens, tout comme des immigrés venant des pays d'Afrique, espèrent encore arriver à destination sur cette île française.
Voilà, la plus grande maternité de France et de l'Europe. L'année dernière, on a fait un petit peu un chiffre qui est pas loin de 11 000 accouchements. On est à 10 800 et quelques. C'est hyper compliqué. Il faut être très motivé. Et là, vous voyez déjà qu'il y a des patients assis par terre, dehors, parce qu'il n'y a pas de place dedans. On entre. Là, ça, c'est l'entrée de la petite porte de la maternité. Allez-y. Je suis le chef de service du pôle gynéco-obstétrique de Mayotte, Roger Serral. Je suis là depuis 4 ans et demi. Voilà. On a beaucoup de pseudo-urgences. Et comme on a beaucoup d'urgences, il faut vraiment trier les patients qui sont vraiment des vraies urgences. Sinon, on va se trouver avec 100 patients devant la porte. Et là, par exemple, j'étais obligé de créer une pseudo-chambre au milieu du couloir avec des draps. Vous voyez, et des patients qui sont là parce que j'ai pas de place.
Des draps qui font office de mur et un petit paravent.
Voilà, regardez, ça c'est, on a fait partie des patientes, mais là c'est des lits qui sont prêts à accueillir des patientes, mais ils sont dans les couloirs. Voilà, on est obligé. Où mettre les patients? Je ne veux pas les mettre par terre.
Parmi les bébés qui sont nés cette nuit ou ces derniers jours, est-ce que vous savez s'il y avait beaucoup de mamans qui venaient des Comores, qui viennent de débarquer en Kwassa Kwassa?
Je n'ai pas le chiffre pour chaque journée en fait, mais globalement parlant, pas loin de 9 sur 10. Pas loin de 9 sur 10. Si on va dire 90% sans papier, je peux dire allez, facilement il y a 60 à 70% des Comoriens et 20% des Madagascar et de l'Afrique.
Et vous pensez qu'elles viennent pour que leur enfant obtienne la nationalité française? Vous pensez que c'est ce qui les motive?
Bien sûr. Moi, personnellement, j'ai posé la question parfois à des patients qui viennent, pourquoi vous venez à Mayotte? J'ai eu plein de réponses, mais j'ai eu des réponses aussi, beaucoup de patients qui m'ont répondu, on vient pas pour les papiers, on s'en fout du passeport français, on vient pour la santé et pour l'école.
On va aller voir une maman qui vient d'accoucher d'un petit garçon, une petite fille.
On va lui poser la question. Allez-y, entrez. Voilà, allez-y. C'est la dame qui est en face de vous. Voilà, bonjour madame.
Bonjour madame.
Bonjour. Ça va bien?
Ça va.
Vous venez d'accoucher aujourd'hui madame?
Oui.
Elle a dit oui. Elle a accouché aujourd'hui.
Vous venez d'où?
Aroulav.
La Comore n'a jaoun.
Pourquoi vous êtes venu des Comores?
Armana Trinta ou la Comore ou jaoun.
Kana Amelia Kontam Chatouli na jaoun.
À propos de sa grossesse qu'elle est venue ici.
Vous êtes venu pour que votre bébé ait des papiers français?
Ah oui, ça papier français.
Tu viens ici pour la jambe, tu m'as parlé avant déjà, ouais, je n'en fais trop loin, ouais.
Oui, elle va bien.
C'était compliqué la traversée depuis les Comores. Vous êtes venu en Kwassa Kwassa?
Ari uga ujana kosa kosa.
Si.
Si, si, elle est venue en kosa ici.
Est-ce qu'elle peut me raconter?
Ari ujo me raconte histoire.
C'est chindre.
Non, elle ne peut pas. Elle a dit elle ne peut pas.
Elle ne veut pas raconter.
Oui. Elle ne veut pas raconter. Merci.
On vous laisse vous reposer. Je vous laisse vous reposer avec votre bébé. Merci, merci madame. Okay. Merci.
Ok.
Je suis arrivé il y a 4 ans et demi, et en 4 ans et demi, j'ai vu l'activité exploser chaque année. Voilà, je suis arrivé, on était à 7500 accouchements, au bout de 4 ans, on est pas loin de 11 000. Et c'est-à-dire à peu près, on a une augmentation de 1000 accouchements par an.
Il y a combien de bébés qui sont nés cette nuit ?
J'ai pas le chiffre exact, on va dire, on est à un moyen entre 25 et 30 par 24 heures.
C'est énorme.
C'est énorme. On dit toujours qu'on est à une classe d'école. J'ai déjà fait, sur une de mes gardes de 24 heures, 42 accouchements. 42 accouchements, ça fait largement deux classes d'école.
Mayotte est devenue un lieu de soulagement pour la jeunesse comorienne. Donc nous, on ne peut pas arrêter là. Les Maorés ne peuvent pas arrêter ça. La République française ne peut pas arrêter ça, même si Darmanin propose un mur de fer.
Nous mettons en place bientôt un rideau de fer dans l'eau qui empêchera bien sûr le passage des Kwassa-Kwassa et des bateaux et des filières d'immigration irrégulière venant notamment d'Afrique des Grands Lacs et qui malheureusement nous donne la situation que nous connaissons.
Pas de mur dans l'océan, mais un véritable mur administratif qui alourdit l'atmosphère ici, dans les rues des villes de cette île, au large de Mayotte.
On vient de franchir la porte du lycée Bamana à flanc de colline, à Mamoudzou, vu sur le lagon. Le lycée est entouré de barbelés, au-dessus des grilles. Soleil de plomb, 8h du matin. On va aller à la rencontre du proviseur.
Et bienvenue donc au lycée Bamana. Voilà.
Laurent Prévost, donc je suis le proviseur du lycée Bamana depuis 4 ans maintenant. Alors on déborde. Tous les ans, on a une partie des élèves qui n'est pas scolarisée, en âge d'être scolarisé, mais qu'on ne peut pas prendre parce que nos classes sont pleines. Voilà. Vous voyez un établissement qui est relativement calme malgré le fait qu'on ait 2700 gamins et étudiants.
Donc là, on va en cours de philo.
On va avoir une classe de philo.
Donc, nous étions à la deuxième partie. La deuxième partie du texte, il disait que la maîtrise du monde, elle passe par le travail. Donc l'homme devient maître. Il n'est plus esclave. Comment écrire là ? L'esclave devient maître. Et il devient maître de qui ? Du maître, bien sûr. L'esclave devient maître du maître. Donc.
Conclusion, la liberté pour Hegel de la conscience s'acquiert par le travail média pour permettre la maîtrise puis le contrôle.
C'est génial. Parfait. Bravo. Bravo, Taran. Allez, c'est bon. Là, maintenant, je passe la parole à vous.
Je m'appelle Monsieur Penelli, Giulio Penelli. Je suis d'origine italienne. Bon, je suis italien et je suis professeur de philosophie depuis 7 années et professeur à Mayotte depuis 4 ans.
Vos élèves ici en classe de terminale sont pour un certain nombre dans une situation délicate. Il y en a beaucoup qui ont des problèmes de papier. C'est un sujet tabou dont ils ont du mal à parler.
C'est difficile pour eux, c'est difficile pour un professeur de devoir leur demander. Parce que nous, malheureusement, notre devoir, c'est de leur demander. Nous devons être au courant de la situation administrative de l'élève. Faute de quoi, on ne peut pas les orienter dans Parcoursup. La plupart des élèves qui ne sont pas suivis, ils font des vœux au hasard. Et malheureusement, l'inscription demande des documents. La France assure la scolarité à tous les enfants, étrangers ou non, depuis 1882. Donc ça veut dire que c'est un rêve auquel la France elle-même, elle croit. Et puis à 18 ans, on se retrouve dans la situation dans laquelle on leur dit « Tu peux avoir 19 de moyenne. Merci, au revoir. » Nous formons des élèves qui sont brillants. Et ensuite, à 18 ans, la seule porte qui se ferme, c'est la porte des documents. Je pense que c'est le plus grand échec qu'on peut subir lorsqu'on est dans l'éducation nationale. Certains jours, je me sens désemparé.
Dans cette classe, assise sur une chaise turquoise, sous les ventilateurs du plafond, une élève a l'air particulièrement désespérée.
Je m'appelle Oria. Et
J'ai 17 ans. Et je suis sur le territoire de Mayotte depuis 5 ans. Je viens du Rwanda. Je suis la meilleure élève de la classe. J'ai toujours obtenu les meilleurs résultats. Mais pour moi, il y a toujours ces pensées qui me disent « Mais pourquoi continuer ?» Alors qu'on sait qu'après le bac, il n'y a rien, c'est un vide, c'est l'incertitude. Et du coup, quand je suis en classe, parfois, il m'arrive de penser « Et si je rentrais chez moi et qu'il n'y avait plus mes parents ?» Qu'ils avaient été pris par la police parce que mon père, il a déjà été arrêté par la police. Et ça, c'est pas évident parce qu'on est en classe, les autres suivent, mais nous, on est ailleurs. Pour moi, je suis la seule espoir, moi et mes sœurs, pour mes parents. Je travaille et je me donne à fond. Il faut qu'on nous ouvre une porte, qu'on puisse nous donner des raisons de rêver.
C'est difficile pour vous de parler de tout ça?
J'en parle jamais. Sauf à Amandine et à mon professeur principal. Mais moi, je mets tout ça dans une boîte. Cette boîte, elle est accessible à personne. Et quand je me mets à parler, aujourd'hui, je me suis mise à parler parce que c'est une opportunité qui s'offre à moi pour pouvoir représenter tous ceux qui sont dans la même situation que moi.
Vous, Amandine, vous êtes sa meilleure amie?
Et puis, je sais que je suis déléguée de classe et je me bats pour tous les élèves de cette classe. Il existe une liste d'élèves méritants entre le rectorat et la préfecture pour la régularisation, pour qu'ils aient l'opportunité de pouvoir poursuivre leurs études. Et avec notre professeur principal, on s'est vraiment battu pour qu'Auria soit sur cette liste et tous les autres élèves qui ont besoin de ça. À Mayotte, on oublie trop vite, que les migrants sont avant tout des humains. Et je pense que c'est un problème qui est en France aussi. On parle d'immigration comme si c'était un fléau. Mais des voyages, il y en a toujours eu. Pourquoi on parle d'immigration comme de quelque chose de très péjoratif quand ça vient de l'Afrique, alors que ça découle quand même de tous les problèmes qui ont suivi la colonisation, la découpe des pays qui a été faite à la va-vite, etc., les guerres, les différentes ethnies. Alors qu'on reçoit quand même avec un cœur grand ouvert, et c'est normal, les Ukrainiens. Tout reste poussé, je pense, par une très grande xénophobie et une grande méconnaissance de l'Afrique. C'est pas normal. C'est pas normal qu'Auria, qui a 19 de moyenne ce trimestre, avec des notes excellentes, mais depuis toujours, n'ait pas les mêmes chances que moi qui ai des notes inférieures. Juste parce que moi, j'ai eu la chance de naître sur le territoire français. C'est pas normal.
Kuzalwa bo mwana ngolindwa ukaye hindwe Nguya huwe furaha na mpia ye Kuzalwa bo mwana ngolindwa ukaye hindwe Nguya huwe furaha na mpia ye Na huomba mwana uhuwe ukaye hindwe Uke mkuba mwana wa huruma dahonie Na huomba mwana uhuwe ukaye hindwe Mkubwa mwana wa huruma dahonie.
À Mayotte, on peut être étranger sans aucun papier, donc en situation irrégulière expulsable. On peut aussi être étranger en situation régulière, comme cette jeune Rwandaise au lycée de Mamoudzou. C'est une spécificité de Mayotte, un titre de séjour territorialisé qui permet de rester sur l'île française, mais pas d'aller ensuite en métropole. Pour le gouvernement, ce statut spécial doit disparaître, tout comme le droit du sol. En attendant cette réforme, sur le terrain, l'État affiche sa fermeté et sa détermination avec des forces de l'ordre omniprésentes, à terre ou en mer.
Bonjour.
Brigadier chef Michael Prêtre, chef de bord de la Nouraine, et brigadier chef Stéphanie Warchol, et le sous-brigadier Gilles Muller. Donc on a des brassières pour vous, qu'il va devoir falloir mettre à bord, obligatoire. Vous allez monter à bord de la Murène, intercepteur de la police nationale PAF. Et on va faire un petit tour lagon, dans le lagon, extérieur lagon, en recherche de quoi ça qui pourrait arriver sur le territoire. Je ne sais pas si vous êtes petit marin ou pas.
Interception sur France Inter.
Donc là, on quitte le port de Mamoudzou. On embarque avec vous à bord du bateau de la police aux frontières.
Voilà, oui, on va naviguer un petit peu. La marée est basse, donc on a quelques passages pour sortir du lagon. Et les Kwassas le savent très bien, savent qu'on ne peut pas passer avec nos intercepteurs quand la marée est basse. Donc ils en profitent à ces horaires-là pour essayer de rejoindre la terre. Ouais, Charlie Oscar de Muren. Ouais, donc appareillage de Muren depuis Mamoudzou. On se dirige vers Est Petite Terre pour le secteur. Là j'ai mis en fond sur la carte le radar. On a tous les îlots qui apparaissent et donc sur la cartographie quand on va naviguer, on va voir donc ces petits points rouges qui vont apparaître et nous montrer en fait sûrement un navire qui est dans le secteur. Ce radar nous permet déjà d'éviter des embarcations qui ne seraient pas éclairées. Et de aller sur un Kwassa aussi qui nous a été détecté par le PC. Pour y aller de nuit également, on a vraiment besoin du radar.
Comment ça se passe quand vous interceptez un bateau de clandestins?
En général, ça se passe très bien puisqu'ils sont fatigués, ils ont entre 6 et 12 heures de mer, entassés sans pouvoir bouger dans des petites barques. Ils ont souvent très peur aussi. Donc en général, ils n'opposent aucune résistance et tout se passe en général très très bien.
Vous interceptez combien de bateaux de migrants chaque jour?
On n'y arrive pas tous les jours non plus. Hein. C'est le jeu du chat et de la souris. Des fois on gagne, des fois ils gagnent. On n'arrive pas à en avoir tous les jours. Hein.
Ils viennent de repérer une petite barque. À l'intérieur, visiblement, un pêcheur.
C'est une barque de pêche professionnelle.
Là, il y a un pêcheur, il a son gilet de sauvetage orange, une casquette, il a un petit drapeau tricolore sur son bateau.
Il y a les papiers du bateau. Ouais. Vous me montrer, s'il te plaît.
Vous le connaissez, ce pêcheur?
On a déjà contrôlé cette barque plusieurs fois. Oui, c'est des pêcheurs originaires de Petite Terre. Va, Monnier. La forme. T'as pas vu quoi ça aujourd'hui?
Il y en a pas. Non, il y en a pas.
Quoi ça, tu en vois quoi? Bonne journée, fais attention à toi. Hein. Non, les Comores, vous voyez la différence entre des pêcheurs maorais et pêcheurs comoriens. Donc les pêcheurs maorais vont plus facilement nous expliquer, nous dire oui, là on en voit, aujourd'hui j'en ai pas vu. Là vous interrogez une personne avec des papiers comoriens. Ouais, il va pas vous expliquer qu'il a vu des quoi ça débarquer aujourd'hui. Charlie Oscar de Muren.
Muren de Charlie Oscar.
DCP Est Petite Terre, présence de 4 barques de pêche en règle.
C'est bien pris de Charlie Oscar.
Vous n'avez pas d'écho suspect dans le secteur?
Négatif de Charlie Oscar, le plan d'eau est calme.
Ah, bien pris pour Muren, donc je vais faire route retour par passant S, retour à Mamoudzou. C'est bon pour toi, Steph?
Allez. On tombe pas sur des Kwassa tous les jours. Ouais, je vais pas dire que c'est une chance de tomber sur un Kwassa. C'est malheureux pour eux. C'est difficile de rester insensible, surtout quand ce sont des enfants qui arrivent et qui sont blessés.
Ça peut être quoi comme blessure?
Il y a des accidentés de la route, il y a des grands brûlés, il y a de tout qui arrive.
Donc il y a des migrants qui prennent la mer pour aller à l'hôpital de Mamoudzou ici, parce qu'ils ont été blessés au commun. C'est ce que vous constatez?
Oui.
Vous pensez que vous allez en intercepter d'ici ce soir?
On espère toujours. Pas que dans l'optique de faire du chiffre ou quoi que ce soit, c'est dans l'optique aussi de sauver des gens. Parce qu'ils sont vraiment sur des embarcations réellement dangereuses, sans gilet de sauvetage, sans moyens lumineux, sans rien du tout pour se protéger. Quoi. S'ils arrivent sur le récif, qu'il y a trop de vagues, ou qu'ils embarquent de l'eau dans leur embarcation, bah, ils peuvent très vite couler. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'arriver sur des Kwassa qui étaient en train de couler, d'ailleurs. On a sauvé tous ces gens-là. J'ai le sauvetage dans l'âme, en fait. Hein. On n'est pas vraiment que pour réprimer, on est là pour le sauvetage aussi également. Au niveau de ces populations qui sont dans le désarroi et dans la pauvreté extrême.
Donc là, on arrive au port.
Voilà, on arrive au port Mamoudzou. Excusez-moi, je vais aller m'occuper d'amarrer le bateau à l'arrière. C'est bon pour toi. Allez, arrière largué.
Bel bateau, allez là-bas. Bel bateau à l'île des Goules. Bel bateau à l'île des Goules. Il gagne l'eau, bande de Goules.
Bel bateau à l'île là-bas, bel bateau à l'île des goûts, bel bateau à l'île des goûts, les gagner l'eau.
À chaque fois que la police aux frontières intercepte une barque de migrants en mer, les clandestins sont envoyés au centre de rétention administrative avant d'être expulsés presque aussitôt vers les Comores. Les passeurs sont rapidement amenés devant des juges, menottes au poignet. On arrive dans ce tribunal judiciaire. Des palmiers devant l'entrée, quartier de Kaweni, juste à côté du plus grand bidonville d'Europe, à 1 km de la seule prison de Lille, où s'entassent plus de 600 détenus pour 250 places. On a rendez-vous avec le procureur de la République.
Alors, Yann Le Bris, je suis procureur à Mamoudzou depuis décembre 2020.
Au tribunal de Mamoudzou, vous jugez combien de passeurs de Kwasa Kwasa ? Ces bateaux de migrants clandestins.
Je pense qu'on est passé d'une centaine de passeurs en 2020 à peut-être 350 à 400 en 2023. On en juge tous les jours. Et certains jours, 3, 4, jusqu'à 10 par jour. Je crois qu'on a 4 déferments cet après-midi de pilotes de Kwasa.
Quels sont les profils de ces pilotes de Kwasa Kwasa ?
Alors, pour l'essentiel, des jeunes hommes majeurs, qui ont entre 18 et 25 ans, pour la grande majorité d'entre eux, qui expliquent être sans emploi aux Comores, pouvant gagner entre 300 et 500 euros pour un aller-retour, ayant parfaitement conscience du risque pénal, et puis qui vont transporter entre 10 et 30 personnes sur un bateau. L'appât du gain est tel qu'ils le font. Et puis vous avez un certain nombre d'entre eux qui sont récidivistes, qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises, qui assument parfaitement de faire partie de réseaux. Ils recommenceront parce que c'est tellement lucratif que le coût judiciaire pour eux est presque indolore.
Les pilotes de Kwasa que vous jugez, ils disent qu'ils gagnent entre 300 et 500 euros pour une traversée. Ils font combien de traversées par semaine ou par mois, vous le savez ?
Alors certains nous disent qu'ils en font jusqu'à 4 par semaine.
Là, vous allez quitter votre bureau pour partir en audience. Vous allez revêtir votre habit de magistrat.
Oui, dans quelques minutes, je vais participer à une comparution immédiate concernant justement des pilotes de Kwasa et puis des auteurs de violence.
Bonjour, donc brigadier chef Kellerny, je suis adjoint du groupe GAO. Nous ne sommes pas un groupe de la PAF dédié à l'interpellation terrestre des personnes en situation régulière. Donc notre point de travail, c'est du contrôle d'identité.
Le GAO, ça veut dire le groupe d'appui opérationnel ?
Voilà, correct.
Et on vous appelle aussi la police basket ici à Mayotte ?
C'est un surnom qui a été donné sur l'île, effectivement.
Parce que vous courez beaucoup après les clandestins ?
Pour ceux qui s'enfuient, tout simplement.
On embarque avec vous dans la voiture ?
C'est parti. Allez, c'est parti.
Donc là, vous êtes un équipage de 3 personnes ?
3 ou 4, Là, actuellement, on est une vingtaine de fonctionnaires répartis sur 4-5 voitures. Pas besoin d'être en convoi, on travaille chacun de son côté. Sauf si, cas de difficulté, on se regroupera, tout simplement. Il n'y a pas de notion de repérage. C'est qu'on contrôle les personnes qui sont devant nous. Moi, je suis incapable de faire la différence entre un Maoré, un Comorien, un Français. La seule chose qui les distingue, c'est une plaisantité. Merci, voilà, ça se passe tout simplement comme ça. Donc, c'est au feeling. Mais dans l'absolu, on fait du contrôle de masse.
Là, on ferme les vitres parce qu'on risque d'être un caillassage. Vous êtes souvent caillassé ?
Il y a une grosse évolution des caillassages, effectivement. Je crois que ça devient quelque part le quotidien. Tous les fonctionnaires sur Mamoudzou, même de la gendarmerie sur l'île. Et oui, la délinquance, elle a bien augmenté. Mais là, les caillassages, ça devient quotidien pour tout le monde. C'est désespérant. Le problème du caillou, c'est qu'on ne le voit pas arriver. La plupart des jeunes qui nous caillassent, au départ, c'est des fantômes. C'est la pluie de cailloux qui tombe sur le véhicule. Ça peut aller du gamin de 8 ans à 25 ans, 30 ans. Et oui, la nouveauté maintenant, c'est qu'ils vous lancent des barres de fer affûtées qui, quand touche le véhicule, le perfore.
Vous avez peur quand vous partez en patrouille ?
Non.
Les fenêtres, elles sont protégées ? On n'est pas dans une voiture blindée, là ?
Non, c'est pas une voiture blindée. C'est une voiture juste renforcée de plexiglas. Pour le moment, ça suffit largement.
Hein.
Et vous, monsieur, vous êtes au volant, le chauffeur?
C'est ça. Marcus, voilà, on a un dépitateur pour procéder à un contrôle routier.
Là, on est sur un rond-point, même sur les ronds-points, là, la situation peut dégénérer très vite.
Sur ce rond-point, quotidiennement, les sorties d'école, ça dégénère.
À ce rond-point dénommé Baobab, un élève a été récemment attaqué à coups de machette à la tête et il a été hospitalisé dans le coma. Les policiers se concentrent sur leur contrôle d'identité.
Donc là, vous contrôlez un jeune couple en deux roues.
Je contrôle deux passagers d'un scooter, tout simplement. Jeune homme, juste votre casque, s'il vous plaît.
Là, vous vérifiez les papiers de monsieur.
Écoutez, il nous a présenté sa carte vitale, il ne trouvait pas son titre de séjour. Il l'a trouvé en photographie. Il y a une concordance. On ne peut pas dire que la pièce d'identité qu'il nous présente sur le téléphone soit vraie ou fausse. On n'est pas en mesure de l'identifier, mais d'un point de vue d'œil, je pense qu'il y a une bonne concordance. Allez, merci à vous. Vous avez un peu changé, c'est normal. Hein.
Vous venez de quel pays, vous, monsieur?
Moi, je vais de Madagascar. Au revoir, monsieur. Dan.
C'est moins dangereux de faire des contrôles au bord des routes qu'à l'intérieur des bidonvilles?
C'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Donc bidonville, on est plus vigilant parce que les cailloux peuvent venir de n'importe où. Alors que là, sur un contrôle routier, c'est plus sécurisant. Pas facile tous les jours, mais on lutte.
François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte. On a une crise profonde, qui est une crise de confiance, une crise de sécurité, et une crise où, lorsqu'on écoute les compatriotes mahorais et nos compatriotes mahoraises, il est très clair que la vie à Mayotte n'est pas une vie qui se déroule selon des modalités normales.
Les mahorais que nous avons rencontrés se sentent en insécurité.
Il y a une insécurité à Mayotte qui est manifeste. Elle se traduit par un certain nombre de phénomènes qu'on identifie assez bien, de violences urbaines, de violences liées à des réseaux criminels. Donc évidemment qu'on ne peut pas nier cette insécurité. Au contraire, je crois qu'il faut pouvoir la désigner. Et c'est en la désignant avec une forme de lucidité, une forme de froideur, une forme de courage, qu'on peut la prendre en main et qu'on peut essayer de la traiter.
Une partie de la population dit ici que la paix civile est fragile, qu'elle est menacée. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez, vous ?
Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que la paix civile, c'est un concept qui touche l'ensemble du territoire. Et donc, dire que la paix civile ou la paix publique est menacée, ça voudrait dire que la paix publique sur l'ensemble du territoire de Mayotte est menacée. Et ça, c'est inexact. En revanche, ce qui est exact, c'est que nous avons des zones où il y a des tensions particulières. Elles sont assez bien identifiées dans leur cause, et effectivement, leurs manifestations peuvent momentanément faire en sorte que la paix civile ou la paix publique soit troublée.
Parmi vos priorités, il y a cette crise migratoire. Il y a des nouveaux moyens qui vont être mis en œuvre.
Alors d'abord, Mayotte n'est pas un territoire isolé au sein de l'océan Indien. Donc il faut que nous prenions en considération cette position géographique qui fait que vis-à-vis notamment des pays d'Afrique des Grands Lacs, nous ayons une démarche constructive pour faire en sorte que cette route maritime récente puisse être endiguée et puisse être ralentie dans toute la mesure du possible. Donc nous avons, le gouvernement français, l'État français, a une démarche active vis-à-vis de ces pays des Grands Lacs. Et c'est une démarche diplomatique qui consiste à, d'une certaine façon, en collaboration avec ces pays, dans une démarche gagnante-gagnante, de mettre la main sur le robinet pour ralentir le flux migratoire. Puis ensuite, on a une action, très simplement, qui est une action de lutte contre l'immigration irrégulière au quotidien. C'est environ entre 24 000 et 25 000 personnes par an qui sont reconduites vers différentes destinations. Et par conséquent, c'est un travail inlassable.
À Mayotte, l'ampleur de l'immigration clandestine provoque une colère de plus en plus forte de la population. Cet hiver, des Français ont érigé des dizaines de barrages pour dénoncer la présence de ces étrangers accusés de tous les maux, insécurité, pénurie d'eau, services publics dépassés et même maladies comme le choléra.
Le blocage de l'île est un mode récurrent de protestation pour une population excédée.
Un amalgame et des peurs sur lesquelles surfe le Rassemblement national, Marine Le Pen est régulièrement à Mayotte pour dénoncer l'abandon des Mahorais. Son parti y enregistre d'ailleurs ses meilleurs scores.
Tant qu'on continuera à dérouler le tapis rouge aux Comores, tant qu'on te tordra pas le bras aux Comores, eh bien, on videra une baignoire avec une petite cuillère tout en laissant le robinet grand ouvert.
Pour mieux comprendre, Sophie Parmentier et Gilles Gallinaro ont rencontré une figure de cette contestation à Mamoudzou.
France Inter. Interception.
J'étais bloquée à Vaïbé, parce qu'il y avait les jeunes qui ont commencé encore à bloquer la route, je ne sais pas pourquoi. Mais depuis le champ là-bas, j'entendais les booms, vous savez, les gaz lacrymogènes qui ah oui, hein, c'est sérieux. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais... Puis bon, là, comme c'est la saison des cueillettes des goyaves, donc je devais aller ramasser les goyaves pour les jus, comme on est en période de ramadan. Beaucoup de gens préfèrent le soir, après le jeûne, rompre le ramadan avec du jus de goyave.
Donc vous êtes allé ramasser les goyaves, oui, et vous êtes retrouvé, oui, bloqué sur la route.
Oui, dans mon champ là-bas.
Alors.
Bon, on peut s'asseoir. Je suis Safina Soula. Je suis la présidente du collectif des citoyens 2018. Et je suis membre fondatrice des Forces Vives 2024. Voilà. C'est le mouvement qui est né là, le dernier mouvement qui a eu lieu à Mayotte pour pouvoir nous faire entendre au plus haut niveau.
Vous êtes devenue l'une des femmes les plus importantes de l'île ?
Ah, je ne sais pas. Mais vraiment, je ne sais pas du tout. Moi, je ne fais que mon devoir de Mahoraise, de femme de Mayotte. Parce qu'aujourd'hui, il faut sauver Mayotte, il faut sauver cette île. Et nous sommes partis à la reconquête de cette île. Aujourd'hui, on se rend compte que nous, Mahorais, en tant que Mahorais chez nous, en tant que propriétaires originaires de sang de Mayotte, nous sommes voués à disparaître. Nous, on ne peut pas, en tant que Mahorais, laisser faire. Nous sommes, bien évidemment, des êtres humains, tous, mais chacun a un chez-soi. Tous ces gens qui arrivent ici, ils ont aussi leurs îles à côté. Nous avons choisi, nous avons fait un choix. Notre choix, c'est le choix de nos aïeux de rester françaises. Je suis française et je suis fière de l'être. Parce que j'ai hérité de ça depuis ma mère, ma grand-mère, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas me l'enlever. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'ils nous laissent gérer notre île. Voilà. Eux, ils ont leur population. Ils ont trois îles. Ils doivent être en capacité de gérer ces trois îles-là. Qu'ils soient nés ici ou pas, nous, ce n'est pas notre problème. Ces gens-là doivent aller rentrer chez eux aux Comores et non pas que tous partent de là-bas vers Mayotte. Nous, en tant qu'enfants de cette île, on n'a pas le droit d'abandonner ce combat. Nous sommes prêts à mourir pour notre île et on ne lâchera jamais. On se battra jusqu'au bout.
Ce discours extrêmement radical, on l'entend aujourd'hui beaucoup sur l'île de Mayotte. Il est même devenu dominant. Mais il ne reflète pas le point de vue de tous les Mahorais.
Nous voici maintenant dans le quartier très populaire de Tsunzu, en banlieue sud de Mamoudzou, au pied d'un bidonville, dans une petite ruelle jonchée de déchets, au milieu de canettes de soda. On voit des morceaux de grenades, traces d'affrontements avec des forces de l'ordre. Il y a quelques maisons de parpaings colorés et derrière, sur la colline, des cases de tôle. Au bord de la route, à l'ombre de grands arbres, près de la mangrove, un groupe de jeunes désœuvrés. On va s'approcher. Vous avez un t-shirt des Comores, oui, sur vous, avec le drapeau des Comores, et dans votre dos, c'est écrit Comores.
Oui.
Vous êtes né aux Comores ?
Oui. Et j'ai grandi ici à Mayotte.
Vous avez des papiers en règle ?
Non, j'en ai pas en fait. Je suis obligé de me cacher tout le temps, peur de sortir de mon village, aller au village voisin, tout comme ça, à cause de la PAF, en fait.
À cause de la PAF, la police aux frontières.
Oui.
Et vous vous sentez menacé par les Mahorais ?
Ouais, trop menacé. Trop même. Ici, à Mayotte, la plupart des jeunes, ils grandissent avec la haine, en fait. Par exemple, tu peux trouver une femme enceinte accompagnée de ses enfants, être interpellée par la PAF, en fait. Et là, les petits jeunes, ils voient ça. Bah, ils se disent, après, ici, dans quelques années, je vais venger ma mère. Et ça commence comme ça. La rage, mais je me calme, je me contrôle.
Je m'appelle Ribé. J'ai 22 ans, bientôt 23 ans.
Là, vous avez un t-shirt bleu, blanc, rouge, tricolore.
Ouais. Je sais pas, moi je suis né ici, j'ai grandi ici, mais je suis français, je crois que Mayotte doit être. Il doit rester français, quoi. Je sais pas.
Et vos parents, ouais, ils sont nés ici aussi ou ils viennent d'un autre pays ?
Non, ma mère, elle est née aux Comores et mon père, il est né ici.
mais il est décédé depuis en 2011. Ouais, du coup, bah, on a grandi avec ma mère. Pour moi, ce qu'ils disent que les Comoriens doivent s'en aller et tout, bah, ils ont tort.
Vous, vous êtes français parce que vous êtes né à Mayotte.
Ouais, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai jamais quitté le territoire. Je l'ai quitté juste une fois, mais j'ai jamais quitté le territoire.
Depuis quand vous avez vos papiers?
Depuis en 2017.
Il vous arrive d'être souvent arrêté par la police?
Parfois, ouais, mais on a déjà l'habitude.
Vous êtes jeune, on sent qu'il y a une grande révolte de la jeunesse. Vous faites partie des révoltés?
En ce moment, bah, les choses ne sont pas comme on voulait, quoi. On veut qu'ils soient. T'as vu, parce que moi où j'habite, bah, j'habite dans une banga, tu vois.
Et dans un banga, dans le bidonville?
Voilà. Et où on va être, quoi?
Vous avez peur qu'on détruise votre bidonville, encore une fois?
Oui. Et c'est sûr que ça sera la guerre.
Vous faites la guerre avec les forces de l'ordre, là, tout autour de nous, dans ce parc, à côté de la mangrove, on voit des restes de grenades lacrymogènes, il y a des batailles entre les forces de l'ordre et vous?
Bah, moi, je suis plus dans ces délires, parce que moi, je suis en sursis.
Vous êtes en sursis?
Ouais, parce que j'étais en prison en 2022.
Pourquoi vous avez été en prison?
Coupeur de route.
Coupeur de route?
Ouais.
C'est-à-dire que vous avez attaqué des automobilistes sur la route?
Ouais.
Avec quoi?
Bah, avec ce qu'on avait. Des cailloux, je sais pas, des machettes, tout ce qu'on avait, quoi. Mais si tu fais quelque chose, tu dois être déterminé à le faire. Voilà, on n'était pas nombreux, mais on était déterminés.
Vous avez attaqué combien d'automobilistes à peu près? Vous avez compté?
Je peux pas, j'y arriverai même pas à le compter. J'arriverai même pas à les compter.
Il y a des gens qui ont été blessés parfois dans les attaques que vous avez faites?
Même pas.
Mais il y a des gens qui ont eu peur?
Ouais, certainement, ouais. Parce que la dernière fois, c'était il y avait un enfant, tu vois. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait de la prison et tout.
Il avait quel âge?
Je sais pas, à peu près 4 ans. Mon sursis finit dans 2 mois et je serai tranquille. Là, je pourrais partir. T'as vu, mais là, je suis coincé ici. Je peux pas partir. Du coup, je reste que mon sursis finisse et puis je me barre. Il n'y a plus d'avenir ici. Il n'y en a plus. Ouais, il y a de la misère, il y a de la galère, il y a tout. Il y a tout ici à Mayotte, tu vois. Tu te fais agresser pour rien. T'as vu? Il faut que je me taille ici avant que je me fasse tuer, quoi.
Vous, vous avez été agresseur et vous avez peur, vous aussi, d'être agressé.
C'est pas qu'on est agresseur que t'as pas peur d'être faire agresser. À tout moment, tu peux te faire agresser, à tout moment. Bah oui, y a pas de vie à Mayotte, y a pas de vie à Mayotte. Si tu restes ici, soit tu te trouves enfermé, soit tu te trouves dans un cimetière.
Dans un cimetière?
Je te jure, sans te mentir. Si tu restes ici, bah, soit en prison, soit dans un cimetière. C'est le conflit qu'il y a à Mayotte. Il y en a plein de conflits ici.
Vous, vous êtes plus dans une bande aujourd'hui?
Non, j'ai arrêté. Ça vaut pas la peine.
Je m'appelle Alison Morano, je suis anthropologue. Je suis à Mayotte depuis 2015. J'ai commencé mes recherches en 2015. Et je suis enseignante également, dans le second degré, dans un collège de Mamoudzou. Ben, le constat, c'est celle d'une jeunesse très précaire et très précarisée. Sur le plan social, sur le plan administratif, sur le plan politique aussi, puisqu'en fait, toutes les mesures qui vont être mises en place à Mayotte pour essayer d'apaiser la société vont être à l'encontre finalement d'une partie de ces jeunesses-là. On a vu les mesures contre le droit du sol qui sont discutées. On voit la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'insécurité qui est assimilée à une lutte contre l'immigration. Et donc finalement, cette jeunesse-là, elle souffre énormément de ces rapports d'altérité. Et donc voilà, c'est le constat que j'ai pu faire d'une jeunesse soumise à beaucoup de violence, en tout cas.
Vous pensez que cette réforme du droit du sol, elle va davantage encore précariser cette jeunesse, ces mineurs isolés?
Alors, ils ne sont pas tous mineurs isolés. Il y en a qui ne sont pas nés ici, mais qui sont arrivés, ils avaient 6 mois, 1 an. Ils n'ont rien connu d'autre que Mayotte. Donc, ça ne les découragera pas. S'ils se font reconduire, ils reviendront. Parce que c'est chez eux, en fait, ici. Ils ont leur famille, ils ont leurs attaches. Donc, de ce que j'ai pu constater, j'ai pas l'impression que ça va réduire forcément les flux migratoires. Ça réduira les titres de séjour, le nombre de délivrances de titres. Mais en termes de migration, je pense pas que ça aura un impact aussi transcendant que c'est espéré.
Mayotte, le droit du sol en question, un reportage de Sophie Parmentier, prise de son Gilles Gallinaro. Réalisation Jérôme Chélius, mixage Nadège Antonini. Cette émission est disponible dès maintenant sur le site de France Inter et en podcast sur les applis du groupe Radio France.